Bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'émission du vendredi 14 décembre 2018. L'année s'achève bientôt, mais enfin, on est quand même à 2 semaines de la fin. C'est Hélène Bédard qui vous parle avec moi en studio. J'ai toujours mon excellente collaboratrice Francine Forgette. Bon matin, Francine.
Bonjour, Hélène.
Avec sa belle voix.
Bien, c'est un peu mieux. Je vous dirais, pour parler en termes sportifs, mon problème au haut du corps est résolu à peu près à 80 %.
Excellent.
On va dire ça comme ça.
D'accord, c'est bien d'adon, oui. À la régie, alors j'ai l'excellent Mathieu Tessier. Bon matin, Mathieu. Alors, de mon côté, ce que je vais vous jaser ce matin, je vais vous parler de peinture à lire à l'aveugle. Je vais vous parler de la génération travail et des compétences des retraités et surtout comment renforcer nos os quand ils deviennent trop fragiles. En attendant, je vais tout de suite demander à Francine ce dont elle va parler. Elle va poursuivre par la suite.
Alors, Hélène, écoutez, Noël s'en vient, comme vous l'avez dit, et aussi la fin de l'année. On va se donner des cadeaux, sûrement des cadeaux électroniques dans tout ça. Alors, aujourd'hui, un dossier, c'est « Où vont les déchets électroniques? » Mais avant, j'aimerais vous parler de mon conte de Noël. Mon conte de Noël, c'est David Saint-Jacques.
L'excellent David. Oui, très séduisant, d'ailleurs.
Aussi, ah, hein? Ben là, c'est vous qui le dites, mais...
Ben... Ah ouais.
J'opine du bonnet.
D'accord.
Alors, donc, je commence avec ce texte qui a été publié dans Le Devoir de Carl Ritino Parazelli, excusez-moi, le 11 décembre 2018, qui parle de l'astronaute David Saint-Jacques qui passe du rêve à la réalité de l'espace. Une semaine après son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, qu'on appelle la SSI, l'astronaute québécois David Saint-Jacques commence à s'acclimater à son nouvel environnement. Il découvre ce que des années d'entraînement n'ont pas pu lui enseigner. C'est une étrange sensation. Avec l'entraînement, c'est comme si tout était un peu familier. Ce que je vois m'est familier, les opérations sont familières, mais les sensations sont complètement nouvelles, a-t-il expliqué lundi, lors d'une première conférence de presse depuis son décollage le 3 décembre à bord d'une fusée Soyouz. Il retrouve peu à peu le sens de l'orientation et commence à se défaire de cette sensation de congestion à la tête causée par la microgravité. Même si l'adaptation peut prendre du temps, un seul coup d'œil à l'extérieur de la station lui rappelle la chance qu'il a d'être en orbite. Lorsqu'on est occupé à faire notre travail, on pense à nos procédures et on voit la Terre, a-t-il noté. On a tous vu ça des milliers de fois, des images de la Terre vue de l'espace. Mais de la voir là, devant moi, cette belle bille bleue, gracieuse, qui tourne doucement dans le vide de l'espace, c'est vraiment émouvant. Alors ça, c'est David Saint-Jacques, hein? C'est un vrai conteur, je vous le dis. C'est ses mots. Après seulement 7 jours dans l'espace, il avoue qu'il voit déjà la planète d'un œil différent. Je regarde la Terre et c'est évident que nous sommes tous des êtres humains de la même espèce sur la même planète. Et que le fait que nous sommes Canadiens ou Américains ou Russes, c'est un détail culturel. Mais ce n'est pas fondamental à qui nous sommes, a-t-il souligné. Au fond, c'est un vaisseau spatial dans lequel tous les êtres humains vivent. David Saint-Jacques a également profité de son apparition publique pour revenir sur les moments marquants de la journée du décollage. Il a été sidéré en assistant à un premier lever du soleil en orbite. « C'était une émotion vraiment incroyable », s'exprime-t-il. Il a été tout aussi marqué par son arrivée à bord de la station spatiale lorsqu'il a pris connaissance du fait que des êtres humains y vivent en orbite autour de la Terre. Je le savais en théorie, mais de le réaliser en personne, ça m'a vraiment impressionné. Le médecin, ingénieur et astrophysicien de formation, s'est également rappelé des émotions fortes vécues lors du lancement à bord de la fusée Soyouz lundi dernier. Je m'assois à l'intérieur, je suis en territoire connu. Ça ressemble complètement au simulateur, les procédures sont les mêmes, On a pratiqué ça des dizaines de fois. Et au décollage, on sent soudainement qu'on n'est pas dans un simulateur. On sent les vibrations, on sent l'accélération. On est écrasé dans le siège. C'est comme l'impression que d'énormes mains très fortes vous poussent vers le haut pendant des minutes et des minutes, puis vous relâchent. Et voilà, vous êtes en chute libre autour de la Terre, a-t-il raconté. Alors, c'était une partie de cette conférence de presse rapportée par Carl Rétino Paradzelli dans Le Devoir du 11 décembre.
Merci, ça fait plaisir.
Hein, c'est vraiment beau.
Et moi, de mon côté, je vais vous jaser de quelque chose qui m'a séduite. Comment apprécier des œuvres d'art à l'aveugle? Et je vous en parle. C'est un texte de Jérôme Delgado et c'est paru dans Le Devoir. Alors, voir donc avec les mains. Le défi est de taille, particulièrement dans un monde où les arts, dit-on, sont visuels. Il est de taille le défi parce que dans un musée, c'est connu, on est surtout prié de ne pas toucher les œuvres. Voilà qu'au pavillon d'art canadien du Musée des beaux-arts de Montréal, une petite révolution s'est mise en marche. Au-dessous d'une peinture d'Alfred Pellan, on vient de fixer deux plaques de plexiglas, à toucher. Cet outil exceptionnel, qui est une traduction tactile de la toile de Pellan, permet d'apprécier par des jeux de textures les formes ainsi que les couleurs de l'œuvre. C'est comme si on ouvrait grandes les portes de l'histoire de l'art. Et voici que c'est une spécialiste de l'animation 3D qui est l'instigatrice du projet. Elle se nomme Patricia Bérubé. Je poursuis, juste un moment. Excusez-moi. La jeune femme a développé deux prototypes à partir de la bannière de l'exposition, c'est-à-dire Prisme Dieu, qui est la peinture de Pellan. C'est son titre. Une toile qui a été faite en 1948. L'un traduit les formes du tableau abstrait, le premier prototype, et l'autre traduit les couleurs. C'est comme si on faisait une peinture à numéros. On a un numéro et une zone délimitée. À ses yeux, la peinture à numéros est une porte d'entrée. Il faut partir de quelque part, dit-elle. Cette artiste est une défricheuse. Le travail de Bérubé pointe aussi les efforts récents des musées pour s'ouvrir davantage. Des outils de négociation et de médiation, comme des cartels descriptifs en braille ou des plans de relief, tout comme des activités multisensorielles et tactiles. Ces dernières concernent surtout la sculpture. Les musées parisiens, comme le Louvre ou le Palais de Tokyo, font figure de pionniers avec leur galerie tactile, mise en place dans les années 90. De son côté, le Musée des beaux-arts de Montréal offre depuis quelques années de toucher avec des gants, des rodins, et des suzards côtés. Patricia Bérubé a voulu élargir l'offre et rendre autonome la découverte à l'aveugle. Ce qu'elle propose lui a été suggéré par des malvoyants ou des gens qui ont des limitations visuelles. La palette se limite donc à quatre couleurs du Pellan, le noir, le blanc, le gris et le rouge. Ces tests se sont limités à un petit groupe de personnes et toutes ces personnes étaient des gens qui avaient perdu la vue, donc qui avaient déjà vu les couleurs précédemment. Elle est arrivée à Pellan, sur conseil de sa mentor, l'historienne Esther Trépanier, car elle cherchait une peinture aux couleurs claires. « Mon but, conclut Patricia, c'est de redonner le plaisir de découvrir, un plaisir qu'on perd quand on dépend de quelqu'un d'autre et de ce que quelqu'un d'autre décide de nous expliquer ce qu'il a envie de nous expliquer. » Alors vivement, qu'on étende cette belle merveille, comment découvrir les peintures à l'aveugle.
Il faudrait qu'on parle de sentiments. Ceux qui sont cachés sous le divan. Dire une fois pour toutes ce que tu ressens, vraiment. Il faudrait qu'on parle, je sens que tu mens. Je sens que tu mens. Il faudrait qu'on parle de tes absences, de ce que tu caches dans tes silences. Nos deux existences sont des plans. Il faudrait faire face aux conséquences. Aux conséquences. Je t'ai donné mon corps, j'ai pris le tien. Moi qui voulais ton cœur, je n'ai plus rien. Je n'avais qu'un rôle de soutien dans le film de ton bonheur incertain. Je n'avais qu'un rôle de soutien.
Fermé que nous chantait Raton Lover.
Lover.
Eh bien, Raton Lover.
Lover, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Bon, voilà. Francine va nous parler cette fois-ci de déchets. Quelle sorte de déchets, déjà?
Les déchets électroniques.
Allez-y donc.
Bien oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec quand ils deviennent obsolètes? Les cellulaires.
Les serpus à rien, là.
Les serpus à rien, les vieux téléviseurs et tout et tout. En voulant les suivre, Mélissa Guillemette, dans Québec Science, a découvert un programme de récupération bien rodé, mais critiqué par son manque de transparence, des matières toxiques complexes à traiter, un réseau parallèle de recycleurs qui échappent à tout contrôle et des exportations illégales. Bref, tout un écosystème qui est nourri par notre surconsommation. J'ai reçu un texto de mon fournisseur de téléphonie cellulaire. « Mélissa, nous avons une excellente offre pour des clients fidèles comme vous, hein? Pour une durée illimitée, obtenez l'incroyable iPhone à 0$ dans le cadre de certains forfaits. » Tentant, d'autant plus que je lis ce message sur mon écran craquelé. Si j'opte pour un nouvel appareil, il me faudra bien recycler l'ancien. Et les trois autres téléphones cellulaires et qui traînent dans une armoire, et leurs câbles, et mes vieilles clés USB, et ma caméra numérique, et cette chaîne stéréo dont j'arrive pas à me départir, pourtant elle date de 1980. Comme quoi, deux Québécois sur trois accumulent les appareils électroniques obsolètes en attendant de faire le grand ménage ou par manque de temps. Par le trichement d'un règlement provincial, un programme de responsabilité élargie des producteurs oblige les manufacturiers et les détaillants d'appareils électroniques à veiller au recyclage des produits en fin de vie. Ces entreprises, sauf Vidéotron et Bell, qui ont leur propre structure, ont refilé la facture du programme aux consommateurs par l'entremise des écofrais imposés à chaque nouvel achat. Par exemple, pour une télé de 46 pouces, il représente 24 $. Pour un cellulaire, 7 sous. Alors bref, on paye pour retourner nos appareils. Mais comme toutes les personnes à qui l'on a parlé dans le cadre de ce reportage, elle indique que des programmes demeurent, dont la question de la transparence. Le Front québécois pour une gestion écologique des déchets n'hésite pas à dire qu'il s'agit de la catégorie de déchets dont la gestion est la plus opaque. À l'heure actuelle, personne ne connaît le taux exact de récupération des déchets électroniques au Québec. L'accès aux données, le nombre d'appareils vendus dans les magasins et d'appareils remis en état ou recyclés au cours d'une année est limité à Recyc Québec. Jusqu'à ce jour, la Société d'État n'a publié que les taux de récupération pour l'année 2015. Et encore, le tableau est incomplet, car les taux pour les cellulaires, les tablettes et les ordinateurs portables ne sont pas publics pour préserver la confidentialité des données appartenant aux entreprises, selon Recyc Québec. On a un système payé entièrement par le consommateur. Pas un sou n'est versé par l'industrie des produits électroniques. On devrait avoir le droit de savoir quels sont les taux de récupération. Il y a moyen de protéger la confidentialité industrielle avec des données agrégées, tout en nous assurant que nos objectifs sont atteints en tant que société. Juge Marie-Caroline Bourg, qui s'est penchée sur le sujet avec d'autres professionnels du réseau environnement dans un mémoire de 2014. « C'est pas si simple », rétorque la directrice générale de l'association qui est responsable de cette récupération, Dominique Lévesque, rencontrée dans les bureaux de l'organisme à Brossard. Vidéotron et Bell ne veulent pas que l'on connaisse leur taux de récupération. Parce que si on arrive à connaître leur taux, ça veut dire que, si on fait certains calculs, on peut découvrir à combien se chiffre leur vente annuelle.
Ah, bien sûr!
Ah, voilà! Bien Alors, sûr. C'était ce premier volet d'un dossier très fouillé que Mélissa Guillemette a fait paraître dans Québec Science d'octobre-novembre 2018, je m'excuse. Et tantôt, je vous parlerai de recyclage, le programme officiel et le programme parallèle.
Bien, merci beaucoup. Eh bien, de mon côté, j'ai trouvé une publication fort intéressante. C'était publié par l'Association québécoise de gérontologie. Et ça nous parle que, ça nous dit en fait, ça affirme même, je vais le dire, la compétence n'a pas d'âge. Alors, génération au travail, c'est de réussir tous ensemble. C'est un... Je vous fais part du texte. C'est un programme, donc, la compétence n'a pas d'âge. C'est un programme qui vise à outiller les entreprises et les organisations dans la mise en place de bonnes pratiques favorisant l'embauche, le maintien et le retour en emploi de travailleuses et travailleurs d'expérience. Ben, pourquoi pas? Pourquoi donc miser sur la main-d'œuvre expérimentée? Eh bien, avec l'allongement de l'espérance de vie en santé, un nombre de plus en plus important de femmes et d'hommes veulent continuer de demeurer actifs et utiles socialement. Ils forment donc un formidable réservoir de main-d'œuvre expérimentée. Plusieurs souhaitent mettre à profit leurs connaissances et leurs compétences en poursuivant leur parcours en emploi après 55, 65 et même après 75 ans. Le besoin de se réaliser, de participer à la société, d'obtenir un revenu de subsistance ou un salaire d'appoint sont autant de raisons qui motivent ces gens. De l'autre côté, les entreprises du Québec font face à des défis importants en matière de recrutement avec des départs massifs à la retraite, par exemple les baby-boomers, et la croissance économique actuelle. Donc, embaucher des personnes de plus de 50 ans ou les retenir le plus longtemps au sein de l'entreprise permettrait d'atténuer ces problèmes. Même une augmentation modeste de ce taux d'emploi contribuerait à renverser la tendance de la pénurie de main-d'œuvre. toute entreprise tire des avantages à appliquer des mesures favorisant le maintien en emploi ou le recrutement d'une main-d'œuvre expérimentée. Voici quelques exemples. Baisse du taux de roulement du personnel et baisse du coût de recrutement et aussi baisse du coût de formation des nouveaux employés. Diminution de la perte d'une expertise qui résulte des départs à la retraite ou vers des entreprises concurrentes. Mise à contribution du personnel expérimenté à la formation des autres travailleurs par un transfert de connaissances, et ça, c'est très précieux, on en perd beaucoup. Effet positif sur la continuité de la relation avec les clients. Accès à un plus large bassin de compétences, d'expériences et de créativité par la constitution d'une équipe de travail diversifiée sur le plan de l'âge. Génération au travail, réussir ensemble, c'est offre de mettre en place de bonnes pratiques d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre expérimentée. Alors, se trouve ce texte terriblement positif et prometteur. C'était donc qui était publié par l'Association québécoise de gérontologie.
Pour oublier que t'es parti, je mémoriserai en ordre alphabétique les noms vulgaires et scientifiques de tous les oiseaux d'Amérique. National géographique. Pour oublier que je m'en je lis le dictionnaire de la mythologie et un magazine d'éco-piscine où je dessine au stylo B les jolies filles en mélusine. Je descends parmi les humains. Je marche dans la nuit en cherchant le visage d'un ami.
S'appelle Philippe B. et cette chanson, c'était Ornithologie 2.
Deux.
Parce que c'est la deuxième.
Essayez de trouver la 1 tantôt, d'accord? Merci. Voilà. Bon, on s'amuse un peu, là. C'est vendredi quand même, hein? Alors, moi, j'ai une belle petite nouvelle à vous faire part. C'est que, imaginez donc qu'il y a une garderie qui a ouvert ses portes dans un CHSLD. Ah ah! C'est à l'autre bout de la vie, là. Je vous en fais part. C'est un texte de Elisa Cloutier. Ça a été publié le 14 novembre 2018, donc ça fait pas très longtemps. Les quelques 200 résidents d'un CHSLD du quartier Montcalm à Québec vont cohabiter bientôt avec des petits bouts de choux, alors qu'une nouvelle garderie ouvrira ses portes dans l'un des pavillons de la résidence en janvier. Donc, ça nous porte, là. Ça s'appelle le projet Villa Montessori. On va voir le jour, donc, en janvier 2019, dans les murs de la résidence pour personnes âgées qui s'appelle Domaine Saint-Dominique, situé sur le boulevard René-Lévesque. Permettra d'accueillir pas moins de 80 enfants, attention, de 9 mois à 5 ans. C'est vraiment des tout-petits. Nous voulions amener de la vie à l'intérieur du CHSLD, dit Patrick Franchet, qui est le copropriétaire de la résidence pour personnes âgées. Nos aînés, quand ils voient un petit bout d'enfants comme ça, ils ont de la lumière dans les yeux. Ainsi, des rencontres entre les deux générations seront organisées chaque semaine dans les salles communes du CHSLD ou dans le jardin extérieur en été. L'aménagement du jardin a été pensé pour créer des espaces de rencontre et de partage, précise la directrice du projet, Mme Franchet. Il y aura notamment des ateliers de cuisine, des chants, des petits travaux manuels et, pourquoi pas, un défilé de costumes d'Halloween des tout-petits, des cadeaux de Saint-Valentin, des échanges de cartes de Noël. Bref, c'est ouvert, il y a des beaux petits projets. Quand même, c'est un projet de 1,2 million, puisqu'il faut parler d'argent. Alors, 1,2 million ont été investis pour moderniser les lieux, mettre évidemment le local aux normes, adjacent au CHSLD, parce que le CHSLD, lui, datait de 1860. Alors, il était désuet, inutilisé. Alors, pour accueillir la garderie, il a donc fallu injecter cet argent. Et la pédagogie des garderies Montessori privilégie une approche centrée sur l'enfant où l'apprentissage est basé sur le sens et l'expérience. 6 éducatrices seront également embauchées pour ce projet. Donc, la résidence du domaine Saint-Dominique accueille des aînés autonomes, semi-autonomes et en fin de vie également. Alors, c'est un très beau projet. C'est sûr que je vous fais une suite de ça. Moi, je trouve ça captivant
de réunir. J'espère, oui. Hélène. C'est un bravo, bravo, bravo.
C'est magnifique.
Quelle belle idée.
Alors, écoutez, en attendant de vous donner de ces nouvelles, moi, je vous demande de rester avec nous. On fait une petite pause et on vous revient immédiatement après cette petite pause. Merci pour la pause musicale et merci d'être resté à l'écoute avec nous. Et nous allons poursuivre avec les déchets, pas de Francine, mais les déchets électroniques.
Oui,
dont Francine,
oui, oui, oui. Le recyclage fait de façon officielle, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour recycler ces déchets électroniques? Alors, toutes les pièces en plastique sont mises en ballot et envoyées principalement à des fonderies, souvent en Asie. Il y a des compagnies au Québec et aux États-Unis qui en prennent certains. Quand c'est possible, on l'en envoie, indique Marc Brunet, qui est le directeur du développement des affaires chez e-Cycle Solutions. Rares sont les entreprises d'ici qui réutilisent les plastiques usagés dans leurs propres produits. Les appareils électroniques qui ont un peu de valeur, comme les imprimantes et les consoles de jeux vidéo, sont passés entiers dans une déchiqueteuse, un type d'appareil qu'aucun établissement québécois ne possède à notre connaissance. Cette immense machine taille en morceaux les appareils et trie ensuite les différentes matières grâce à des champs magnétiques et à des séparateurs optiques. Le résultat de ce déchiquetage est moins pur que par désassemblage manuel, mais trouve sa place dans les fonderies de plastique et de métaux. Un exemple de produit dangereux, cependant, il peut en avoir les écrans cathodiques. Ils contiennent deux types de verre, dont l'un est contaminé au plomb. Une concentration qui peut aller jusqu'à 80 %. Une fois dépouillés de leur coquille, ils parviennent sur un tapis roulant dans une pièce isolée où des employés en salopette orange séparent les deux types de verre et retirent le métal à l'intérieur du tube cathodique. Le verre plombé doit être traité par une entreprise spécialisée qui facture des frais. Autre matériel délicat, les écrans à cristaux liquides et leurs tubes fluorescents contenant du mercure. Ils partent également vers une entreprise spécialisée. C'est pour cette raison que les écofrais sont plus élevés pour une télévision que pour un cellulaire ou un ordinateur, explique Bruce Hartley, qui travaille dans ce secteur depuis 20 ans. Pour en revenir à mon téléphone cellulaire, dit l'auteur de l'article, Mélissa Guillemette, si je choisis de le changer, il ne finira peut-être pas au rayon du recyclage de l'usine. Bonne nouvelle, puisqu'il est encore fonctionnel, il pourrait être remis à neuf dans la section sous haute sécurité, où sont effacées toutes les données et vendues dans une boutique. Puisque ce recycleur reçoit beaucoup de matériel issu de diverses organisations et entreprises qui achètent souvent des appareils haut de gamme, Bruce Hartley aime dire que sa boutique propose l'équivalent de Mercedes d'occasion.
C'est vrai.
Ça nous fait un petit velours quand on va en chercher un qui est de seconde main, comme
mais
on
oui,
disait,
oui.
En bon français.
Mercedes
quand
d'occasion.
Tout le travail de remise en état, de démontage et d'envoi est terminé, on doit fournir toutes nos données à l'association pour qu'elle s'assure qu'on expédie toujours la matière dans une usine certifiée, mentionne-t-il. Les audits sont réguliers, tant du côté du Bureau de la qualification des recycleurs que de la norme internationale, qui est la norme R2, obligatoire depuis 2017, pour obtenir des contrats du Programme québécois de recyclage. Alors, quand on regarde ça, c'est qu'il y a quand même des règles qui sont strictes. Malgré tout, il y en a qui échappent aux mécanismes de surveillance et je vous en reparlerai un peu plus tard.
Oui.
Je vous rappelle que ce dossier sur les déchets électroniques a été publié dans Québec Science octobre-novembre 2018.
Alors, de mon côté, je vais vous parler d'une chose bien importante, bien importante. Ça se dit comme ceci. Comment renforcer nos os devenus trop fragiles? C'est par Karen Hind de Durham University. Je vais vous jaser de ça. Ça vient de l'édition du soir Ouest France. C'est en train de devenir mon édition chouchou. Nos sociétés sont plus sédentaires que jamais. Déplacements en voiture, courses livrées à domicile, jeux vidéo. Nous ne bougeons pas suffisamment et cela a un impact sur nos os. Si cette tendance sédentaire se poursuit, les humains risquent de devenir plus fragiles et plus dépendants. Mais comment donc y remédier? La perte de solidité osseuse est l'un des risques reliés directement à la sédentarité. Une femme sur trois, un homme sur cinq risquent d'être un jour victime de fractures liées à l'ostéoporose. Il existe notamment une relation directe entre le manque d'estrogène après la ménopause et le développement de cette fameuse ostéoporose. Les enfants en particulier sont moins actifs. Ils sont le moins actifs, surtout à un moment crucial dans leur développement, alors que l'exercice peut optimiser les gains de solidité osseuse. Mais bon, la recherche démontre que ce que l'on appelle les souvenirs épigénétiques pourraient peut-être se transmettre de génération en génération. Eh bien voilà, ce qui signifie que notre mode de vie actuel pourrait influencer l'expression des gènes des générations futures. Ben ça, c'est une découverte pour moi. Notre squelette joue donc plusieurs rôles. Il soutient notre corps, fournit des points d'attache pour les muscles, les tendons, les ligaments, et stocke des minéraux comme le calcium et le phosphore. Cependant, lorsque les forces et les exigences externes disparaissent, eh bien voilà, nos muscles se dégradent et nos os deviennent plus légers, moins denses. Passer un mois au lit, par exemple, peut se traduire par une perte d'environ 3 % de l'os de la jambe. Incroyable! Les recherches démontrent aussi que les adultes d'âge mûr, la sédentarité est impliquée dans le risque de réduction de la solidité osseuse. Donc, cette réduction d'activité physique, qui survient après la retraite, comme le fait de rester assis pendant des périodes prolongées, sont les facteurs responsables. Intéressant, lorsque l'os est chargé, c'est-à-dire soumis à diverses forces, il réagit en devenant plus fort. Et fait étonnant, l'analyse des os anciens suggère que notre squelette aujourd'hui est plus fragile que celui de nos ancêtres. Ces gens-là étaient beaucoup plus actifs que nous et passaient le plus clair de leur temps en mouvement. Ses recherches ont démontré que la masse osseuse était alors d'environ 20 % plus importante. Et ça, c'est pas rien, hein?
Non, je comprends.
Ouf, 20 % plus importante que nous. Ce que vous pouvez faire, des exercices simples, des modifications de style de vie, et je vous en donne quelques exemples. Pour faire l'affaire, par exemple, l'utilisation d'un sac à dos durant les promenades ou le shopping peut, par exemple, augmenter la charge sur la colonne vertébrale. Est-ce pas bête, tous ces trucs-là? Donc, portez votre sac à provisions afin de charger les muscles de vos bras ou de votre dos et indirectement vos jambes. Donc, dans ce temps-là, on stimule nos os. Si vous avez un chien, marchez avec lui le plus souvent et sur de plus en plus longues distances. Marchez régulièrement durant vos pauses au travail, à la maison. Organisez des randonnées, pratiquez la marche sociale en famille, entre amis. Bref, trouvez-vous des excuses pour le faire. Prenez les escaliers plutôt que les ascenseurs. Je sais qu'on l'entend souvent, mais c'est très, très, très important. Jardiner, ça, il semble que ce soit le summum. Jardiner régulièrement, entretenir un potager. Et évidemment, si vous avez un poêle à bois, le fait de couper sa propre bûche peut aussi accélérer. C'est intéressant. C'est
fun. Sauf qu'à Montréal.
Ah, c'est ça, à Montréal, c'est ça.
On ne peut plus.
Ces petits changements peuvent aider à renforcer la solidité des os. Écoutez bien ceci. En effet, on estimait en 2010, c'est pas loin de nous, là, OK? En 2010, il y avait 158 millions de personnes de plus de 50 ans qui présentaient un risque de fracture ostéoporotique. Ce chiffre de 158 millions devrait doubler d'ici 2040. On n'est pas loin de ça. Si l'allongement de l'espérance de vie peut expliquer partiellement cette situation, le problème réside surtout dans des habitudes de vie défavorables à la solidité et à la bonne santé des os. Donc, il faut y voir. C'était donc dans l'édition du soir West France de Karen Heng, qui est professeure à l'Université de Durham.
Je veux pas partir comme ça. Oh non.
selon Damien Robitaille, Robitaille, on est né nu. Voilà.
Sans aucun doute, je m'accorde avec lui.
Je confirme.
Alors, nous allons donc poursuivre avec Francine le recyclage de nos déchets électroniques.
Bien oui, je continue.
Parfait.
On est loin de Damien Robitaille. Je cherchais un lien à faire comme souvent, mais là, je vous avoue que, à part les pièces qui sont mises à nu, là, je vois pas grand-chose.
Je savais que vous réussissiez.
Oh non, c'est très tiré par les cheveux. Alors donc, je vous disais avant la pause qu'il y avait un réseau parallèle au Québec. Alors, au fil des arrivées des cargaisons de matières à récupérer, les recycleurs autorisés par l'APR, je vous rappelle que c'est l'Association pour le recyclage des produits électroniques qui œuvre au Québec, observent un phénomène étrange. Ils traitent plus d'écrans que de tours d'ordinateur. Comme s'il y avait une fuite quelque part. Celle-ci existe bel et bien. Un recycleur non certifié, désirant rester anonyme évidemment, appelons-le Roger, nous a expliqué comment il recycle de façon écologique, entre guillemets, en dehors de la surveillance de l'ARP. Il démantèle les ordinateurs de ses clients commerciaux et revend les composants, principalement à des courtiers américains ou canadiens, tout comme les cellulaires entiers. Quant à la coquille des ordinateurs, aux imprimantes et aux moniteurs, il s'en remet à un point de dépôt de l'ARP. Subtil quand même. Quand j'ai 10 boîtes pleines, j'appelle mon contact du point de dépôt. Il vient chercher les boîtes et m'en donne d'autres. Je paie le transport. Évidemment, l'ARP ne cautionne pas ce type d'échange et nous a signalé qu'elle inspecte les points de dépôt partenaires pour ne pas hériter d'appareils dits cannibalisés. Un autre recycleur non certifié, bon, Jim, celui-là, on va l'appeler comme ça, procède de la même manière avec les téléviseurs. Roger et Jim font partie d'une centaine de recycleurs parallèles actifs au Québec, selon une évaluation de l'ARP, qui dénonce leurs pratiques. Ils n'ont pas de compte à rendre, souligne Dominique Lévesque de l'ARP. Ce réseau mine le rendement du programme officiel de recyclage qui devait atteindre certaines cibles à partir de 2015, faute de quoi des amendes allaient devoir être versées au fonds vert. Mais le gouvernement du Québec a décidé de reporter l'échéancier à 2020. En collaboration avec Recyc-Québec, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, on étudie le phénomène et on cherche des solutions, nous ont indiqué les deux partenaires. N'en déplaise à l'ARP, Roger est convaincu que ses clients recyclent davantage grâce à son service rapide et gratuit, peu importe le volume à récupérer. Car, rappelons-le, il serait facile pour ces entreprises d'envoyer leurs appareils au dépotoir. Alors pourquoi Roger et Jim ne se soumettent-ils pas à la certification de l'ARP? Le premier n'en a pas les moyens. Jim, lui, n'a simplement pas envie d'être géré par une grosse organisation. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon reportage sur le réseau parallèle du recyclage et du recyclage des circuits et appareils électroniques. Pensons-y pendant le temps des fêtes. Oh, et bien. Rappelons-nous qu'il y a un pacte en environnement.
Bien, merci beaucoup. C'est un intéressant dossier, vraiment très intéressant, très actuel, surtout à la veille des festivités où il va y avoir énormément de cadeaux de ce type. Hein. Ça va grossir les poubelles et les... Bon, je ne vais pas plus loin. De mon côté, je vais vous lire un texte qui vient de Vie de grands-parents. J'ai déniché cette page web fort intéressante et ça parle d'âgisme. Des choses à faire pour l'éviter. L'âgisme, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. C'est pas parce qu'on a un certain âge, nous aussi, que ça peut pas nous arriver. Avoir des préjugés et des comportements blessants, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et oui, même si nos intentions sont bonnes, il faut savoir que l'âgisme peut accroître l'isolement social, la un risque de dépression, diminuer la liberté d'expression et de choix et affecter grandement l'estime de soi de ceux qui en sont victimes. C'est pourquoi on s'est dit que quelques conseils pour éviter la discrimination par l'âge feraient grand bien à tout le monde. Je vous en parle. On demande d'abord aux personnes âgées comment elles ont envie de se faire appeler. On arrête d'infantiliser les petites madames ou les petits messieurs. Non seulement c'est dur pour l'ego, mais ça établit comme un lien de parent-enfant. Si monsieur décide de se faire appeler Sylvain, par exemple, ben on l'appelle Sylvain. Et madame décide de se faire appeler madame par son nom de famille, ben on l'appellera comme ça, ça lui fera plaisir. On inclut les personnes âgées dans nos discussions, on écoute les réponses à nos questions et surtout on les consulte pour les décisions qui les concernent. On le fait avec nos enfants, alors pourquoi pas les faire avec les gens âgés de notre entourage? Notre rapport avec les personnes âgées doivent être empreints d'empathie. On s'assure de laisser une place à leurs émotions, à leur contrariété dans nos discussions, c'est important. Et tout ça sans les juger. Voir la vie changer autour de nous, perdre ses amis précieux quand on vieillit, c'est pas un passage facile. J'appellerais ça un passage difficile. On les invite en sortie, on leur fait côtoyer nos enfants, c'est important. C'est de profiter du moment présent avec eux sans les écarter de notre quotidien. Évidemment, on n'est pas des surhumains non plus. On en a beaucoup sur les épaules, mais on peut clairement doser ces moments qui demandent plus de patience, quand c'est possible, bien sûr. On prend le temps de les connaître et de les rencontrer. Ce sont nos parents ou pas, mais ce sont surtout des humains qui ont connu des vies riches, remplies d'anecdotes, et leurs valeurs sont peut-être différentes des nôtres. Ou peut-être se sont-elles transformées en vieillissant, qui sait, mais pour ça, il faut jaser avec eux pour le savoir. Tout ça, on ne saura pas si on ne prend pas le temps de s'asseoir, d'apprendre à les connaître, pour voir comment on peut être une personne d'une présence agréable dans leur vie et qu'ils le soient eux autres aussi. On le sait, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, c'est sûr, au royaume de la personne âgée. Cette étape de la vie présente de grands défis, surtout quand on n'y a jamais fait face. Pensez-y, les parents de vos parents n'ont en majorité pas vécu jusqu'à 80 ans. Alors tout ça, c'est du nouveau. Il faut donc apprivoiser ce changement de vie et de rythme ensemble et prendre le temps de se re-rencontrer sans préjugés. Bon, en espérant vous avoir donné un petit coup de pouce, c'était « Vie de grands-parents » paru le 23 octobre 2018.
s'appelle Bonobo et c'était l'instrumental 10 Tigers ou 10.
Et c'est reparti.
Et c'est reparti. Comme vous le constatez, j'ai quelques problèmes électroniques aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est vendredi.
C'est vendredi, oui. C'est vendredi, Mathieu. T'es tout pardonné. T'es tout pardonné.
Faudrait pas qu'il se retrouve aux déchets électroniques quand même, là.
Non,
hein?
Non.
Non, non, il en est vraiment pas responsable. Vraiment pas.
Bon, alors voilà. Moi, j'ai des choses rigolotes à vous jaser. Écoutez, dans une précédente émission, je vous avais parlé des arrêtés municipaux qui étaient assez curieux. J'en ai trois autres à vous parler. Vraiment, ça me tente de les faire. C'est des communes françaises. Ils passent des arrêtés, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme disent les jeunes, par rapport. Alors, celle-ci, ça a lieu dans la Haute-Garonne, à Cugnot. Ben, imaginez donc où il n'est pas permis de décéder dans cette commune-là.
Oh, où exactement, là?
À Cugnot, dans Haute-Garonne.
Oh, je vais y aller.
Bon, ben, je vais vous dire pourquoi, par exemple. Il manque de place au cimetière. Alors, ils ont passé un arrêté, écoutez, en 2007, je sais que ça fait quelques années, mais quand même, interdisant à toute personne ne disposant pas d'un caveau dans le cimetière existant de décéder sur le territoire de la commune. À situation absurde, réponse absurde, dit le maire de cette municipalité, il ne reste que 17 places de libre. Au rythme annuel de 60 décès, nous ne pourrons bientôt plus enterrer nos morts dans la commune. Mais, l'année dernière, un nouveau cimetière a été inauguré avec une capacité de 538 emplacements. Alors, c'est juste amusant de ramasser de nos édiles municipaux, qu'est-ce qu'ils peuvent discuter lors de leur réunion. J'en ai une autre, ici. Ça se passe dans la Manche, au niveau de la plage de Granville. Imaginez donc, il y a un interdit qui est... il est interdit aux éléphants de fouler la plage. Je vous l'explique. Je m'amuse en le lisant. C'est parce qu'il y a deux cirques qui viennent de façon régulière à Granville, puis s'installent en face de la plage de Hérel. Alors, c'est une catastrophe pour la qualité des eaux de la baignade. Alors, ils ont décidé qu'à cause des excréments des éléphants, ils ont dû deux fois fermer la plage. Alors, ils ont rien de moins que passer un arrêté municipal pour interdire aux éléphants d'aller se baigner. Okay. J'ai une petite dernière, mais celle-là, c'est la plus loufoque de tout. C'est à Châteauneuf, à Vaucluse. Il y a un conseil municipal qui a interdit les ovnis de survoler ou de stationner sur le territoire du village. C'est écrit tel quel, je l'ai devant moi. C'est pas croyable. Le maire actuel, Claude Avril, a juré de ne pas s'y toucher. Il est bien trop admiratif de cet arrêté municipal. Écoutez, je vous laisse sur ces choses rigolotes. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Francine.
Mais écoutez, Hélène, ça a été un grand plaisir. Et je vous promets, pour reprendre mon analogie sportive du début, la semaine prochaine, je devrais être à mon 110%.
Parfait. Pas de haut du corps, puis pas de bas du corps.
Non.
Allez, au revoir, puis je donne rendez-vous à tout le monde vendredi prochain. Bonne journée, Mathieu!